Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous, à l'écoute de ce bulletin d'informations. Au sommaire aujourd'hui, le président Miloš Zeman s'oppose à un accroissement de la part des sources de l'énergie renouvelable dans la production de l'énergie. Les élections européennes, une ONG tchèque lance une campagne pour un revenu minimum vital dans l'industrie du textile et Prague devra répéter un appel d'offres d'une valeur de 74 millions d'euros. Dans un discours prononcé ce mardi au Forum économique de Jofin, qui se tient à Prague, le président Miloš Zeman s'est opposé à l'effort de l'Union européenne de faire accroître la part des sources de l'énergie renouvelable dans l'industrie tchèque de l'énergie. Selon le chef de l'État, ces sources alternatives de l'énergie sont peu fiables et risquent plus souvent une surcharge ou une panne. Miloš Zeman a aussi appelé à ce que la République tchèque défende mieux ses intérêts au niveau européen, ses intérêts étant conditionnés par la place éminente de l'énergie atomique dans la stratégie nationale dans ce secteur. L'organisation non gouvernementale Nazeme sur Terre, qui gère depuis plusieurs années la campagne Ushiletonanas, a sollicité les candidats aux élections européennes pour soutenir une hausse des salaires des travailleurs dans le textile. L'organisation pointe du doigt le fait que le salaire minimum légal dans les pays de l'Europe de l'Est et dans les pays du Sud, tels que le Bangladesh, le Cambodge ou encore le Vietnam, ne suffit même pas à couvrir les dépenses de base. Selon le communiqué de presse de ce mardi, plusieurs candidats tchèques aux élections au Parlement européen ont déjà déclaré qu'une fois élus, ils s'investiront pour mettre en place un salaire correspondant à un minimum vital pour les travailleurs dans l'industrie du textile. Ce montant est calculé en fonction des coûts du logement, des soins médicaux, d'alimentation et d'éducation et varie en fonction des pays. Par exemple, au Cambodge, le salaire minimum légal de 293 euros représente seulement 25% du minimum vital. Le Bureau de la protection de la concurrence a constaté des manquements dans l'appel d'offres lancé par la mairie de Prague en juin 2013 et relatif au maintien de l'éclairage public. Selon le bureau, la mairie n'a pas suffisamment justifié l'exclusion d'une entreprise candidate à cette commande d'une valeur de 2 milliards de couronnes, soit 74 millions d'euros. Le contrat du gestionnaire actuel, l'entreprise Eltodos Italum, a donc été prolongé en attendant la révision du dit d'appel d'offres. Le contrat inclut le maintien de l'éclairage public dans les rues, des monuments historiques ainsi que des passages piétons. Poursuivi en justice depuis 2009 suite à un accouchement à domicile qui a abouti à la mort du nouveau-né, la sage-femme et présidente de l'Union des sages-femmes, Ivana Konix-Markova, a été acquittée ce mardi par la cour d'appel à Prague. En 2011, Ivana Konix-Markova a été condamnée à une peine de 2 ans de prison avec sursis ainsi qu'à une interdiction d'exercer sa profession pendant 5 ans et à rembourser la compagnie d'assurance les frais d'un montant de 2,7 millions de couronnes, soit environ 100 000 euros. La cour d'appel a souligné le caractère biaisé du rapport d'experts portant sur ce cas qui a été soumis à la cour. Ce manquement a d'ailleurs été relevé par la cour constitutionnelle. Le parquet peut encore porter plainte contre ce jugement auprès de la cour suprême. Dans le cas contraire, il s'agit de l'aboutissement du premier procès de ce type en République tchèque. Ce mardi, un nouveau centre de recherche sur les changements globaux a été inauguré à Brno, en Moravie. L'institut qui porte le nom de Czech Globe s'intéresse en particulier au changement global sous 3 angles, climat, écosystème et des évolutions socio-économiques. L'organisme rattaché à l'Académie des sciences tchèques est un des 8 projets du programme européen de recherche et d'innovation qui vise à créer des centres européens d'excellence scientifique. L'Union européenne a participé à la construction de Czech Globe à la hauteur de 4/5 des dépenses totales qui s'élèvent à 800 millions de couronnes, soit environ 30 millions d'euros. Le centre repose également sur le travail des 23 chercheurs venant de l'étranger. Et nous terminons sur un mot de météo fait de tous les Blahoslav. La journée de ce mercredi sera ensoleillée avec des températures très agréables autour des 22 degrés pour les maximales. Lucie Drexelová vous remercie d'avoir suivi ce bulletin d'information. Restez à l'écoute pour la suite de notre programme avec Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Bonjour à tous mes chers amis pour la suite de cette émission de Radio Prague consacrée à l'actualité tchèque. Merci tout d'abord à Lucie Dreselova pour son remarquable bulletin d'information. Au programme aujourd'hui, Sonia Jarošová vous propose de découvrir le destin des Tchèques qui vivent ou ont vécu l'expérience d'étudier 3 ans dans un lycée français. Cela est possible à Dijon et à Nîmes dans des sections tchèques de 2 établissements forcément un peu particuliers. Avant cela, nous parlerons d'actualité, une actualité largement tournée vers la politique étrangère. Nous irons en Ukraine et en Chine, avec la détention de 7 observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. L'un de ces détenus est tchèque. Et nous irons en Chine avec la visite quasi historique du chef de la diplomatie tchèque à Pékin. Bonne écoute à tous et à toutes. La République tchèque reste inquiète pour son observateur qui compte parmi les 7 membres de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, retenu prisonnier depuis vendredi par des séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Ce mardi, le président de la République, Miloš Zeman, et le premier ministre, Bohuslav Sobotka, se sont rencontrés entre autres pour évoquer la question. Un sujet signé Guillaume Narguet.
Le chef de l'État a fait savoir qu'il soutenait toutes les éventuelles démarches qui seront entreprises par le gouvernement pour parvenir à la libération de l'officier tchèque et de ses 6 autres collègues allemands, danois et polonais de la mission européenne. Ceux-ci ont été arrêtés, rappelons-le, par des miliciens armés alors qu'ils circulaient en compagnie d'accompagnateurs de l'armée ukrainienne. Et depuis vendredi, les nouvelles informations ont été plutôt rares, comme le confirme le lieutenant-colonel Petro Joch du département du contrôle du désarmement de l'état-major général de l'armée tchèque.
La dernière fois que nous avons discuté ensemble, c'était vendredi à 10h13. À 12h, nous n'avions plus aucune liaison. Il nous a dit qu'il se trouvait à la limite de Sloviansk, que la situation était calme et qu'ils allaient continuer en direction de la frontière. Par la suite, nous n'avons plus communiqué avec aucun membre de l'équipe.
Dimanche néanmoins, les otages, considérés comme des espions de l'OTAN et alignés dans une salle du conseil municipal de Sloviansk, place forte des séparatistes russophones, ont été présentés par Vyacheslav Ponomariov, maire autoproclamé de la ville. Parmi eux se trouvait donc bien entendu l'observateur tchèque, un homme expérimenté selon Petro Joch.
C'est un inspecteur très expérimenté qui fait ce travail depuis 10 ans. Outre les longues missions en Irak et en Bosnie-Herzégovine, il a pris part à des dizaines d'autres missions du type de celles en Ukraine. Non seulement rien de semblable ne lui était jamais arrivé, mais à aucun autre inspecteur non plus. Nous sommes prêts à faire face aux cas de figure les plus divers, mais pas concrètement au type de situation dont nous sommes les témoins, car personne ne pouvait la prévoir et c'est quelque chose qui ne se produit jamais.
Le lieutenant-colonel tchèque précise quel était le rôle de son collègue au sein de la mission européenne.
Personnellement, il n'avait pas de mission spéciale. Il est membre d'une équipe internationale qui avait pour mission de contrôler dans certains endroits bien précis quels groupes s'y trouvent et ce qu'ils y font, s'ils édifient des postes de défense ou s'ils attendent dans les casernes, s'ils renforcent les troupes ukrainiennes à la frontière ou si, au contraire, de l'autre côté, les troupes russes ne se renforcent pas.
Lundi, le chef de la diplomatie, Lubomír Zaorálek, a indiqué que la République tchèque, en contact avec la centrale de l'OSCE à Vienne et le ministère ukrainien des Affaires étrangères, faisait confiance à l'Allemagne, dont 4 ressortissants sont retenus prisonniers et qui disposent d'une position forte en Ukraine.
Pour la première fois depuis 15 ans, un haut représentant de la République tchèque, en l'occurrence son ministre des Affaires étrangères, Lubomír Zaorálek, est en voyage officiel en Chine. La visite de 3 jours traduit la volonté tchèque de mettre en arrière-plan la question des droits de l'homme pour se concentrer désormais sur le développement de relations économiques pérennes avec le pays le plus peuplé de la planète. À Pékin, le chef de la diplomatie tchèque a ainsi affirmé que la République tchèque était opposée à l'indépendance du Tibet.
nous ouvrons une nouvelle étape des relations tchéco-chinoises, une étape de collaboration. Par ses propos, le ministre des Affaires étrangères chinoise, Wang Yi, semble avoir mesuré l'importance que la partie tchèque accorde à sa nouvelle ligne politique vis-à-vis de Pékin, qui consiste à favoriser avant tout le développement des échanges économiques. Évidemment, cela voulait dire faire table rase de la sensibilité affichée par le passé, notamment par l'ancien président Václav Havel à l'égard de la région du Tibet. Devant son homologue chinois, Lubomir Zaorarek a dit les mots qu'il fallait.
Česká republika respektuje teritoriální integritu Číny. Nehodláme nějak
Čínskou. La République tchèque respecte l'intégralité territoriale de la Chine. Dans le futur, nous ne comptons pas surprendre la partie chinoise sur ce point, qu'il soit question du Tibet ou de sujets similaires.
Nehodláme nějak Čínskou stranu v budoucnosti překvapovat, ať co se týče otázek Tibetu či podobně.
La position nouvelle du gouvernement tchèque n'est pas pour déplaire à Miloš Zeman, le chef de l'État tchèque, qui à l'automne prochain pourra poser une deuxième brique à l'amitié sino-tchèque à l'occasion d'une visite officielle à Pékin. On écoute le président de la République.
Je suis pour le développement le plus large possible des échanges commerciaux avec la Chine. Cela comprend des échanges au niveau des investissements, mais également au niveau des personnes, qu'il s'agisse de touristes, d'étudiants ou d'entrepreneurs.
La Chine est le quatrième plus grand partenaire commercial de la République tchèque, mais la balance de ces échanges est très déséquilibrée. Les exportations tchèques, de l'ordre de 1,5 milliard d'euros à destination de l'Empire du Milieu, sont en effet 8 fois inférieures aux exportations chinoises en sens inverse. C'est aussi pour réajuster cette balance que Lubomír Zaorálek est accompagné d'une délégation d'entrepreneurs tchèques.
Pour nous, la Chine est aujourd'hui un partenaire très significatif au sens le plus large, notamment quand nous parlons de l'Union européenne. Ce serait une véritable faute que la République tchèque ne prenne pas part à ce processus si elle ne reconnaît pas et ne participe pas au dialogue, aux négociations, à la collaboration dans différents domaines avec la Chine.
Bruxelles encourageait pourtant jusqu'alors les États de l'UE à faire valoir la primauté du respect des droits de l'homme dans leurs relations avec la Chine. Mais prenant modèle sur l'Allemagne, la France ou la Grande-Bretagne, c'est une vision pragmatique des relations avec un pays en passe de devenir la première puissance économique mondiale qui s'est imposée à Prague. L'opposition politique est d'ailleurs nuancée sur cette visite du chef de la diplomatie tchèque, à l'image de Miroslav Kalousek du parti conservateur Top 09, une formation d'ordinaire favorable à la poursuite de l'action de Václav Havel en faveur des droits de l'homme.
La Chine est bien évidemment un acteur important, mais bien entendu, il me semblerait adéquat que le ministère des Affaires étrangères s'exprime sur la question des droits de l'homme.
Lubomír Zaorálek a bien abordé ce point puisque l'accord signé ce mardi entre la République tchèque et la Chine comporte, outre l'engagement de ne pas interférer dans les affaires intérieures de l'autre pays, un volet sur le respect des droits de l'homme dans le cadre des traités de l'ONU. Voilà qui ne devrait pas avoir d'impact particulier sur la faible épaisseur du droit du travail en Chine et sur le penchant chinois à user de la peine de mort et à réprimer les dissidents politiques. Depuis plus de 90 ans déjà, la période des mois d'avril et mai est marquée par la tenue des concours d'admission pour les sections tchèques en France. À la rentrée prochaine, les lycées Carnot de Dijon et d'Alphonse Daudet de Nîmes accueilleront dans leurs classes de seconde respectivement 6 et 4 nouveaux élèves tchèques. Tous y suivront ensuite la totalité de leur enseignement secondaire. Que représente pour un jeune tchèque le fait d'être lycéen en France et quels sont les souvenirs des bacheliers des tumultueuses années 1968-1969. A-t-on encore besoin de ce type de partenariat aujourd'hui ? Radio Prague, et en l'occurrence Sonia Jarošová, a essayé de répondre à ces questions en interrogeant plusieurs élèves des sections tchèques, anciens mais aussi actuels.
Panorama.
Panorama.
Ce fait d'avoir fait mes études secondaires à Dijon a déterminé tout le reste de ma vie, c'est assez évident. Je ne serais pas devenu ce que je suis devenu si je n'étais pas passé par Dijon.
C'est ce qu'affirme Václav Jamek, écrivain récompensé en 1989 du prix Médicis de l'essai pour sa prose écrite en français, traducteur reconnu, diplomate et enseignant à l'Université Charles. Issu de la promotion 1969, Václav Jamek souligne l'importance aujourd'hui des sections tchèques pour les relations bilatérales entre la France et la République tchèque.
À mon avis, elles sont un fondement. Elles forment des générations, peut-être pas très étendues, mais des générations de personnes qui seront à jamais attachées à la France, aux relations franco-tchèques, et donc qui contribueront à les rendre beaucoup plus solides.
Rappelons ici que les sections, ouvertes en 1920 à Dijon, en 1923 à Saint-Germain-en-Laye et en 1924 à Nîmes, ont été fermées à plusieurs reprises pour des raisons politiques au cours du XXe siècle. Leur réouverture, d'abord au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, puis à la fin des années 60, n'ont finalement duré que quelques années. On se demande donc aujourd'hui, avec d'autant plus de curiosité, comment c'était pour les jeunes Tchécoslovaques de cette époque d'aller étudier en France. Comment était-ce que de se retrouver adolescent dans cet Occident rêvé dont les portes ne s'entrouvraient que pour quelques instants seulement? Collègue de Václav Jamek à l'Université Charles, l'écrivain, poétesse et traductrice Vlasta Dufková est partie étudier au lycée pour filles Claude Debussy à Saint-Germain-en-Laye. Elle nous détrompe.
Pour moi, c'est un choc en ce qui concerne le peu de liberté. Ça paraît un paradoxe, parce qu'on venait d'un pays de l'Est, et pourtant, on avait un sentiment de plus de liberté qu'en France, parce qu'on était enfermés dans un lycée. On sortait deux fois par semaine. L'idée naïve, un peu naïve, qu'on avait de la France, presque des mousquetaires, et des choses comme ça, moi, je dis, en exagérant. Alors là, c'était la France du Nord, cartésienne, etc. C'était la discipline. Bon, c'était pas le lycée de Dijon qu'on avait visité après, qui était plus napoléonien que le nôtre. Le nôtre, c'était très, très soft. Mais c'était très, très, très différent de notre école. Il y avait des garçons, c'était plus détendu qu'en France.
L'expérience de Vlasta Dufková aurait peut-être été différente si elle s'était retrouvée dans un lycée plus populaire. Seulement, les sections tchèques ont été ouvertes dans des lycées bourgeois prestigieux où la discipline va souvent de pair avec de hautes exigences scolaires. Et c'est ce niveau d'excellence et cet élitisme du système éducatif français qui reste aujourd'hui encore un choc, plus souvent perçu comme positif, pour ces Tchèques habitués à vivre dans une société plus égalitaire. Les témoignages de Teresa Pechouškova et de Esther Bouchova, deux étudiantes à Nîmes actuellement, confirment ce constat.
Pour avoir une bonne note en France, c'est plus difficile qu'avoir une bonne note en République tchèque. Et puis, on met vraiment l'accent sur l'organisation d'un travail et de l'expression orale aussi. C'est vraiment un travail structuré.
C'était dur, c'était plus dur que je croyais. Et j'avais beaucoup de problèmes. Le début était très difficile, mais maintenant, ça va beaucoup mieux.
Les deux systèmes d'éducation, tchèque et français, sont très différents. Esther Bouchova est bien placée pour faire la comparaison, puisqu'elle est arrivée au lycée Alphonse Daudet en classe de première, après avoir passé deux années dans un lycée tchèque.
En Tchéquie, le système il reposait plutôt sur la mémorisation des faits, mais en France, en revanche, c'est le développement du récit, de l'argumentation, de l'esprit.
Aussi bien à Dijon qu'à Nîmes, les élèves des sections tchèques logent à l'internat, sauf le week-end qu'ils passent généralement dans des familles. Le régime est sûrement moins strict que dans les années 60, néanmoins la discipline reste le mot d'ordre. Et c'est cela surtout qui est inhabituel pour les jeunes tchèques. C'est ce que nous explique Karolina Koukolová, dijonnaise issue de la promotion 2010.
Tout notre temps libre est consacré en fait à la préparation des cours, à l'écriture des dissertations, des travaux pour l'école. Je dis pas qu'on peut pas faire la fête du tout, non, on peut la faire, mais il y a quand même ce processus de demande d'autorisation pour sortir, donc comme si on était dans une colonie de vacances ou dans un camp d'été où tout est réglementé et on doit respecter les règles.
Mais revenons encore dans les années 60. En effet, peu de Tchécoslovaques ont vécu les événements de mai 68 en France, de surcroît âgés de 18 ans à peine. Vlasta Dufková raconte tout d'abord la profonde différence entre les deux sociétés.
Chez moi, en Tchécoslovaquie, on était vraiment là de toute cette éducation civique, une sorte d'idéologie, bien sûr, de parler la politique, la société, pas seulement la politique communiste, on ne peut pas dire ça, mais tout ça, s'intéresser à la vie sociale, ce que c'était normal, c'est obligatoire. En France, comme ça, c'était interdit. Alors, il y avait une grande soif de cela. On avait l'impression que cela allait guérir tous les maux. Et bien sûr que la vérité entre les deux. Par exemple, je me souviens d'une discussion avec un jeune ouvrier qui est venu à l'école. Il était intelligent. Pour nous, c'était normal. Ici, dans cette société égalitaire qui reste encore très égalitaire, à peu près tout le monde se rencontre, tandis que là, ça a été une société très, très hiérarchisée. C'est-à-dire, ces filles-là ne rencontraient jamais des ouvriers. Et puis de voir un ouvrier intelligent qui leur parlait, c'était pour elles quelque chose d'extra.
Mais alors, pour ces jeunes étudiants, les grands tournants de l'histoire ne faisaient que commencer. Václav Jamek.
Après l'invasion russe en 68, en août, nous étions en vacances. On a beaucoup douté sur la possibilité de revenir, d'aller en France pour terminer les études. Donc nous étions plutôt contents que finalement on nous a laissé partir. Et donc en 69, la question qui se posait, c'était plutôt la question de savoir si oui ou non, il fallait retourner en Tchécoslovaquie ou rester en France.
Aussi bien Václav Jamek que Vlasta Dufková ont décidé de revenir en Tchécoslovaquie. Et Vlasta Dufková explique une des raisons qui l'ont poussée à rentrer.
On mûrit vite à des époques comme ça. On a l'air ou bien l'impression de vieillir, c'est-à-dire vieillir entre guillemets, à la rentrée scolaire. J'ai décidé de rentrer en Tchécoslovaquie. Je crois qu'en grande partie, je suis revenue pour la langue, parce que j'écrivais déjà en tchèque. En France, j'ai appris à penser. Mais la poésie, je ne pouvais l'écrire qu'en tchèque. Et la France m'a donné, comment dire, elle m'a guérie d'une certaine façon, parce qu'avant, j'avais un complexe d'intelligence. J'avais l'impression qu'un poète ne peut pas être rationnel, etc. C'est la France qui m'a appris que les deux, on peut combiner, que ce n'est pas un défaut de penser quand on veut écrire.
Dans le contexte dramatique de l'époque, certains sont restés, évidemment. Aujourd'hui aussi, de nombreux jeunes Tchèques décident de rester à l'étranger après leur bac à Dijon ou à Nîmes. Leurs motivations ne sont aujourd'hui bien évidemment plus les mêmes, comme le précise Teresa Pechouchkova, cette année en terminale.
J'espère que ça va m'apporter des avantages aussi sur le marché du travail, parce que nous, dans la section tchèque, je pense qu'on aura quand même un profil intéressant pour les employeurs, parce qu'on aura un double baccalauréat franco-tchèque, que je pense pourrait être intéressant si on se lance dans une carrière internationale plus tard. J'aimerais faire les études à Sciences Po Paris, et sinon, en droit. J'aimerais continuer en France. Je pense que si je m'installe un jour quelque part, ça va sûrement être en France, parce que je me sens vraiment bien ici. J'aime le savoir vivre des Français. Donc pour l'instant, je ne pense pas revenir en République tchèque.
C'est la question du choix qui est très différente aujourd'hui, pense Vlasta Dufková.
Pour nous, c'était une sorte de destinée, vraiment. Ça, c'est arrivé comme ça. C'était la vie. qu'on avait fini par accepter. Aujourd'hui, tout est choix et peut-être même un calcul. Mais il faut calculer aussi. Il faut vivre cette Europe qui aura de plus en plus de problèmes. Et il faut peut-être, ou sûrement, que ceux qui ne se rencontrent pas comme voisins, qu'ils se connaissent. Et il ne suffit pas de se connaître au lit, à l'université. Est-ce que certaines choses ne se répètent plus après le lycée?
Václav Jamek, qui a travaillé en tant que conseiller culturel à l'ambassade de République tchèque à Paris entre 1994 et 1998, s'est engagé pour le maintien des sections dans les années 90, lorsque les autorités des deux pays doutaient de l'utilité de leur existence.
J'essayais d'expliquer que la formation qu'on recevait en France n'était pas seulement une formation en langue, que c'était aussi une formation en civilisation, en culture mentale. C'était une chose que j'avais beaucoup de mal à faire passer comme message aux autorités tchèques, aux hommes politiques tchèques, de faire comprendre que la culture était un moyen de communication indispensable, et notamment dans les relations avec la France, que les Français avaient tendance à regarder avec un certain mépris des gens qui méprisaient la culture, et que on ne pouvait pas se permettre d'afficher une ignorance totale de la culture quand on voulait communiquer avec la société française, et pas seulement donc, les relations économiques. Et je crois que ce message à ce moment était reçu, donc qu'on m'a écouté.
Aujourd'hui étudiante à l'Université Charles de Prague, Karolina Koukolova s'engage activement dans l'association des anciens élèves des sections tchèques et tchécoslovaques. Créée en 2009, cette association se donne pour but d'être un intermédiaire entre les anciens élèves et les élèves actuels, de rassembler des données sur eux, ainsi que de gérer un fonds de soutien mis sur pied grâce aux contributions des anciens élèves. Mais qui sont-ils?
Je pense qu'on est une élite qui est capable aussi de se tisser des liens entre les personnes qui sont très haut placées. C'est aussi un des objectifs de l'association, d'organiser des rencontres. Alors, ce qui est très difficile, c'est que ces élèves sont dispersés partout dans le monde. Et ce sont des gens qui sont pour la plupart très occupés. Parmi les anciens élèves des sections tchèques, il y a des hommes placés dans la politique, dans l'enseignement supérieur, des médecins, des avocats, des interprètes aussi, des personnes qui travaillent dans l'UNESCO, des personnes qui travaillent pour Microsoft, les personnes qui organisent des festivals de musique à Prague, donc il y a vraiment de tout.
Bien que depuis la deuxième moitié du XXe siècle, différents types de coopération s'ouvrent et se développent au niveau de l'enseignement secondaire, les sections tchèques restent un dispositif tout à fait unique en Europe pour leur ampleur et leur tradition historique. Menacées dans leur existence à plusieurs reprises, elles ont toujours résisté, souvent grâce à l'engagement de ceux qui conçoivent la portée d'un tel partenariat.
Voilà, c'est avec ce reportage de Sonia Yaroshova sur les sections tchèques de deux lycées en France que s'achève notre émission. Merci d'avoir suivi ce programme qui vous était présenté par Pierre Ménian. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site www.radio.cz/fr. À très bientôt. Ahoy!